La femme puissante est un genre de monstre.
Y a pas à se réjouir qu'une femme ait du pouvoir.
Je vais le dire, t'as du clito.
Revolution, baby.
Femme puissante, deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble, deux mots qui sonnent bizarres à l'oreille. On dit qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, délicieuses, vives, intelligentes, parfois dures, manipulatrices ou méchantes, mais on dit encore trop rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Et pourtant, le moment est venu pour les femmes d'assumer leur puissance, et c'est ce qu'on va voir tout cet été. Femme puissante, saison 3, avec une candidate à la présidentielle, une grande patronne, une réanimatrice qui sauve des vies, une actrice oscarisée, une écrivaine sulfureuse. Et ce samedi, c'est une soprano du barreau qui est notre invitée. Bonjour et bienvenue à tous sur France Inter.
Femme puissante, Léa Salamé sur France Inter.
Bonjour, j'ai rendez-vous avec Jacqueline Lafont. Merci. Bonjour. Comment allez-vous, Mère ?
Bien. Et vous ?
Merci de me recevoir dans votre cabinet.
Très contente de vous recevoir dans mon cabinet.
Oui, dans votre
pas
cabinet.
Pas chez moi, mais dans mon bureau.
C'est un peu chez moi aussi, parce que j'y ai passé beaucoup de temps. On est à 5 minutes à pied du palais de justice, vous avez fait exprès ?
On est à 5 minutes à pied du palais de justice, on est à 5 minutes à pied de chez moi.
Mmh. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes installée ici ?
34 ans à peu près.
Il y a beaucoup de photos, c'est des photos de famille, c'est quoi ?
J'ai beaucoup de photos de ma famille, mes enfants, mes parents, mon mari. Mmh. Voilà, mais c'est un bureau, je ne reçois pas en fait.
Vos clients ne viennent pas ici
beaucoup. Non, ou alors vraiment ceux que je connais depuis longtemps, etc. Mais je les reçois plutôt dans la salle de réunion à côté.
Quand Nicolas Sarkozy vient ici, il va dans la salle de réunion.
Nicolas Sarkozy, on va plutôt chez lui.
D'accord. Vous vous déplacez. Pour lui, c'est un régime spécial.
On se déplace et je crois qu'il n'est jamais venu ici. Voilà.
On y va ?
On y va.
Ce jour-là, au palais de justice, envahi de caméras et de micros pour le procès ultra-médiatique d'un ancien président de la République, on ne voyait qu'elle. Silhouette frêle, élégante, cheveux noirs tirés, beau visage de la Renaissance, elle a même réussi à voler la vedette à son propre client, Nicolas Sarkozy. Au royaume des ténors pénalistes, souvent des hommes, parfois machistes, elle est ultra respectée, une lame redoutable, elle ne lâche rien, disent ses collègues. Avec son mari, Maître Pierre Haïk, ils étaient l'un des couples d'avocats les plus puissants de France. Mais un jour, Pierre, malade, a dû arrêter le métier. Quand elle parle de lui, son partenaire de toujours, son grand amour, elle ne peut empêcher les larmes. Mais elle se reprend vite. Jacqueline Lafont n'est pas femme à montrer ses douleurs. Never explain, never complain. On l'a retrouvée dans son cabinet du boulevard Saint-Michel, juste à côté du palais de justice. Et justement, on entend les sirènes de police qui emmènent toute la journée les détenus au palais. Maître Jacqueline Lafont est notre invitée. Jacqueline Lafont, à quel moment de votre vie vous êtes-vous sentie puissante ?
En réalité, je crois que je ne me suis jamais sentie ou ressentie puissante. Je me suis évidemment interrogée, je me suis dit qu'est-ce qu'on met dans ce mot ? Qu'est-ce que c'est que la puissance pour moi, pour une avocate qui est une femme ? Ce que je sais en tout cas, c'est que je ne dirai jamais de femmes qu'elles sont impuissantes. Je ne me situe pas sur ce terrain. Ce que je sais aussi, ça j'en suis sûre, c'est que je ne suis pas une femme de pouvoir.
Quelle est la différence entre le pouvoir et la puissance ?
Dans le sens auquel j'ai réfléchi et auquel j'ai pensé pour ce qui me concerne, je pense que c'est quelque chose de très intérieur, que l'on met au service d'un combat, d'un métier, d'une défense, par exemple, quand on est avocate, comme moi. Tandis que le pouvoir, c'est probablement un pouvoir qu'on exerce plus sur les autres. Et en ce sens, je ne suis pas une femme de pouvoir. Et en plus, je pense que, contrairement à ce que certains cherchent à faire à croire, les juges ont du pouvoir, les avocats n'en ont pas.
Ah bon ? Beaucoup pensent que vous avez beaucoup de pouvoir,
ouais,
les avocats.
Ben je pense que c'est une erreur. Et je pense que ce que nous avons, c'est les droits de la défense. C'est notre force de conviction, c'est notre force de persuasion, c'est notre intelligence, j'espère, c'est notre capacité de travail. Le fait de mettre tout cela au service des hommes et des femmes qui nous demandent de défendre, là, si l'on me dit que j'exerce une puissance en faisant cela et que je suis une avocate puissante pour cela, oui, ça je le revendique et je l'espère en tout cas de tout mon cœur. Oui.
Mais si on reprend la définition de la puissance, qui est un peu celle de Nathalie Kosciusko-Morizet qui disait la différence entre le pouvoir et la puissance, c'est que la puissance, c'est de se sentir à un moment centré dans son axe, à sa place. Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où vous vous êtes dit, là, je suis à ma place ?
En fait, je me dis, à chaque fois que je me lève pour défendre quelqu'un, que je suis à ma place. Je pense que c'est probablement le moment où on ressent une forme de puissance parce que on se donne totalement. On est seul, on est dans l'arène, on rentre dans l'arène. Et je pense qu'il faut y croire. Il faut qu'on pense, qu'on croit, qu'on espère en tout cas, que si on est là, c'est qu'on doit être là et qu'on est bien pour être là.
Donc il y a quand même un sentiment de puissance qui vous prend quand vous entrez dans l'arène. C'est vous qui employez le mot de l'arène.
Oui. En tout cas, c'est la force que l'on met au service de la défense. La défense, c'est un combat. C'est à la fois protéger les gens, c'est combattre pour eux, combattre toute forme de pouvoir judiciaire, carcéral, médiatique parfois, celui de l'opinion publique. C'est une pression très forte. Donc, il faut avoir de la puissance, oui.
Il faut avoir les épaules.
Il faut avoir les épaules.
Ouais. Et vous les avez eues tout de suite, les épaules, ou c'est avec l'expérience que vous vous êtes sentie puissante?
En tout cas, dès que j'ai fait du droit, c'était pour faire ce métier et pas un autre.
Mon père, métier, c'est avocat droit pénal.
Voilà. Ouais, avocat pénaliste.
Ça veut dire quoi, pénaliste, pour ceux qui ne le savent pas?
Ceux qui ne le savent pas, c'est simplement ceux qui défendent les personnes qui sont poursuivies. Voilà, à qui on reproche d'avoir commis des actes contraires à la loi, qui sont toujours présumés innocents.
C'est les criminels, c'est les délinquants, c'est ça le pénal.
Absolument.
C'est quelque chose de plus sulfureux, c'est quelque chose qui vous fait rêver.
Pour moi, c'est la seule défense qui m'intéressait. Face au pouvoir judiciaire et au procès judiciaire, on est quand même en état de faiblesse. Et j'ai toujours pensé que c'était quelque chose de beau que d'être aux côtés de ceux qui sont dans cet état de faiblesse. Les plus puissants dans un procès judiciaire, ils sont en état de faiblesse.
Pourquoi?
Parce que la machine judiciaire est une machine qui détient le pouvoir. Et que celui des avocats est minime, mais c'est à la fois peu et beaucoup le pouvoir des avocats. Celui de convaincre, de s'opposer, celui de surveiller, de contrôler, c'est peu et c'est énorme. Et c'est ça que je trouve assez merveilleux dans ce métier.
Il y a non seulement votre réputation, Jacqueline Lafont, vos confrères disent tous que vous êtes brillante, redoutable, une lame, mais aussi l'ampleur des dossiers dont vous vous occupez. C'est bien simple, la plupart des grands procès politico-financiers en France ces dernières années, vous en étiez. Affaire Bettencourt, affaire Benalla, affaire Hulot, affaire des écoutes Sarkozy. Est-ce que la puissance d'une avocate se mesure à son carnet d'adresses de clients?
Je pense que dans la perception qu'on a de l'avocat ou de l'avocate, sûrement. Ce qui est certain, c'est que ce sont des procès dont l'on parle, qui sont dans les médias, qui sont relayés, et donc ce sentiment peut-être de puissance est plus perceptible pour le public. Je crois qu'il y a des tas de femmes avocates puissantes qui exercent dans l'anonymat, qui défendent avec beaucoup de force les personnes qui les choisissent pour exercer leur métier, et donc je crois que cette puissance, elle se voit peut-être plus, et peut-être que si un jour, des hommes et des femmes qui sont eux-mêmes des puissants vous font cette confiance, c'est qu'ils considèrent que vous êtes une, il y a beaucoup d'autres, hein, des bonnes personnes pour assumer ce rôle.
Vous défendez les puissants, on va les reciter, Nicolas Sarkozy, Nicolas Hulot, l'homme d'affaires Jean-Marie Messier, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, vous avez conseillé Alexandre Benalla, vous défendez les puissants et les riches, mais pas seulement, non?
Non, pas seulement. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur. J'ai toujours, dans ce cabinet, continuer à défendre des inconnus, des personnes qui sont issues d'univers très différents, très défavorisés.
Des jeunes des quartiers, vous
défendez. Des jeunes des quartiers. Et pour moi, c'est fondamental de continuer à faire ça. À chaque fois, ce métier, on le fait de la même façon en réalité. Encore une fois, on parle de certains dossiers, mais dans les autres, on déploie la même puissance et la même énergie. En tout cas, je l'espère.
Vous dites d'ailleurs, on est plus intelligent, on connaît les ressorts psychologiques, on comprend les situations quand on sort de son monde.
Oui, moi j'en suis sûre, c'est vrai qu'on a chacun des univers qui sont plus ou moins préservés, protégés et du coup assez circonscrits. Moi, quand je vais plaider à Bobigny ou quand je pars à Draguignan, comme c'était le cas il y a quelques temps, quand je vais en maison d'arrêt défendre des jeunes gens qui sont issus des quartiers, oui, je me dis à chaque fois que je ressors plus riche, plus intelligente de ce qu'est le monde, de ce qu'est notre monde.
Plus riche, pas forcément, c'est pas les dossiers où vous gagnez de l'argent.
Non, plus riche, ça c'est sûr, mais en tout cas plus riche de connaissances de la nature humaine, de ce qui la compose.
Étiez-vous ambitieuse quand vous avez commencé dans ce métier? Vous vouliez tout bouffer?
Non. Non, alors ça franchement c'est sincèrement une expression qui ne me convient pas, je pense. En revanche, j'avais une ambition très forte, c'était celle de ne renoncer à rien. Ouais, ça, pour moi, c'était important.
Ça veut dire quoi, renoncer à rien?
Je voulais travailler, je voulais avoir des enfants, j'avais envie d'avoir une vie amoureuse épanouie, je voulais voyager, je voulais lire. J'avais envie de ne renoncer à rien et je pense que c'est une ambition difficile.
Et vous l'avez atteint, cet objectif, cette ambition?
On ne l'atteint jamais suffisamment. Je peux avoir quelques regrets. Je pense que j'aurais pu faire mieux certaines choses. Mais j'espère avoir à peu près atteint cette ambition. Ouais.
À chaque femme, je demande un objet qui incarne pour elle la puissance des femmes. Vous avez choisi quoi?
C'est un objet qui m'est très personnel, puisque je suis avocate et j'ai choisi ma robe.
Votre robe avocate.
Ma robe d'avocat. Parce que, d'abord, c'est un cadeau de mon père. J'avais décidé d'être avocate pénaliste à son grand désespoir. Il aurait rêvé d'avoir une fille magistrate.
Ou
avocate des affaires. Donc, il considérait que c'était pas vraiment un métier pour les femmes. Et en fait, il m'a offert cette robe et il a été mon fan, mon soutien. Et donc, voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment un objet qui compte. Et puis, ce qui m'amuse, c'est que c'est quand même une robe que portent les hommes aussi. Finalement, là, pour le coup, on a quand même un objet égalitaire. Et si vous voulez, quand on commence dans cette profession, on est tous derrière cette robe les mêmes. Et je pense que cette robe, elle nous oblige à être puissants.
Vous vous sentez plus puissante quand vous la mettez, cette robe?
En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il m'aiderait une fois de plaider sans robe à la cour d'assises et j'avais l'impression d'être totalement
nue,
dépouillée. Il me manquait quelque chose. J'ai plaidé quand même, bien sûr, mais il me manquait quelque chose. C'est un uniforme qui rassure, qui pose et qui nous met tous
à égalité.
Et moi, je trouve ça assez formidable.
France Inter. Femme puissante. Léa Salamé.
Pourquoi, à chaque procès, Jacqueline Lafont, on n'entend que...
Dans cette procédure pénale, nous avons été, depuis le premier jour, les dindons de la farce.
Je suis avocat, je suis pas médium, mais j'avais prévenu tout le monde. Nous n'acceptons pas que l'on se soit payé Balkany. Ce que nous attendons, c'est que Balkany soit jugé. Et c'est singulièrement différent.
Depuis 12 ans, je n'ai pas arrêté de dire que cette procédure avait été polluée par les autorités françaises, par les autorités politiques.
Dans une affaire donc où il y a une violation évidente des droits de l'homme, et où la condamnation à mort peut être mise à exécution dans quelques jours, on ne se demande pas avant d'agir quelles sont les chances de succès. On agit.
Dans l'ordre, Hervé Temim, Éric Dupond-Moretti, Olivier Metzner, Thierry Lévy, certains sont vivants, certains sont morts, c'est tous des grands avocats, des très bons avocats. J'aurais pu citer d'autres, j'aurais pu citer Thierry Herzog, Georges Kiechmann, Maurice Garçon, de grands avocats, de grands ténors du barreau, que des hommes, que des hommes, que des hommes.
Oui, alors d'abord, ce sont des immenses avocats, tous autant qu'ils sont. Moi, je tiens à dire que, bien sûr que les hommes sont en position prédominante dans ce métier comme dans d'autres d'ailleurs, et en particulier peut-être dans ce métier. Mais moi, je n'oublie pas une chose, c'est que ce sont des hommes qui m'ont appris ce métier, qui m'ont enseigné, qui m'ont donné envie de le faire, plus des hommes que des femmes, ce que l'on peut regretter. Hein. Évidemment, quelques femmes qui ont forcé mon admiration et qui ont compté.
Qui ?
Une femme qui s'appelle Françoise Cotin, qui est une avocate pénaliste, qui travaille quasiment plus, qui était une femme formidable, qui l'est toujours, hein, mais qui n'exerce quasiment plus.
Pas Gisèle Halimi.
Gisèle Halimi aussi, bien sûr. Elle a mené un combat formidable, elle a fait bouger les lignes, elle a réussi, elle aussi, je crois, à être présente un peu sur tous les domaines de la vie. Elle a mené sa famille, son combat, si, bien sûr.
Son engagement politique.
Donc, elle a fait bouger les choses. Ce sont des sources d'admiration pour moi, évidemment. Mais ils sont beaucoup plus nombreux, donc ce sont eux qui nous ont appris, moi je trouve qu'ils m'ont plutôt accueillie. Moi je suis là aujourd'hui, je vous parle, j'ai hésité, comme à chaque fois, je suis très parcimonieuse voilà, dans ma façon de parler aux médias, je le fais dans certains dossiers, et puis quand les hommes veulent parler, je les laisse, ça m'est égal.
Il n'y a pas de féminin à ténor, c'est bizarre quand même, non ?
Non, alors il y a quelques livres qui évoquent les sopranos ou les ténoras, je ne sais plus.
Ça vous va, vous, soprano? Soprano du barreau.
Écoutez, moi, tout me va.
Mais quand même, les femmes sont devenues majoritaires dans la profession d'avocat. Je crois qu'elles sont 56% aujourd'hui.
Absolument.
Et pourtant, on les entend moins. Est-ce la faute des médias? Est-ce que ce sont elles qui courent moins les médias, qui courent moins les micros, qui sont moins narcissiques, qui ont peut-être moins besoin d'exister que les hommes? Je me fais le mea culpa moi-même, mais vous êtes mon contre-exemple. Quand on veut inviter un avocat, c'est souvent un homme qu'on invite.
Aujourd'hui, la profession s'est largement féminisée, comme vous le rappelez. En revanche, il y a encore de grandes inégalités dans la profession. Je crois que les femmes sont payées 50% de moins que les hommes et qu'elles sont beaucoup moins importantes dans les postes de responsabilité. Elles sont beaucoup plus collaboratrices qu'associées par rapport aux hommes. Donc, nécessairement, elles sont moins présentes dans les affaires dans lesquelles on peut avoir accès aux médias. Voilà. Mais je pense aussi que dans ce métier de pénaliste, qui est peut-être un métier plus médiatisé que les autres, il y a encore peu de femmes pénalistes. Il y en a quelques-unes.
Elles n'osent pas?
Je sais pas. Moi, je repense à mon père. On est trois sœurs. Il fallait qu'on travaille. C'était une évidence qu'on fasse des études. Une sœur qui est médecin, une autre qui est juriste. Mais bon, pour lui, c'était un métier qui n'était pas fait pour les femmes.
Parce qu'on fréquente des criminels, des voyous.
On fréquente des voyous. On reçoit des familles de criminels et voyous. On va en prison. On peut être appelé le soir, la nuit, etc. Du coup, je pense que c'est un métier, effectivement, qui a été plus largement réservé aux hommes. Et puis, il y a encore beaucoup d'hommes qui ont pensé très longtemps que les femmes ne pouvaient pas le faire, qu'elles n'avaient pas la voix, qu'elles n'avaient pas le coffre, qu'elles n'avaient pas la robustesse.
Mais votre père, à la fin des fins, il vous a poussé?
Oui. Mon père m'a évidemment poussé, il m'a encouragé, il m'a accompagné, il venait m'écouter. Et en fait, il a été très heureux et très fier que je fasse ce métier qui lui faisait tellement peur pour moi.
Y a-t-il une manière féminine de plaider? Non, répond votre collègue Julia Minkowski à la librairie Mola. Écoutez-la.
Il n'y a pas de différence entre un homme et une femme en tant qu'avocat. Une fois qu'on enfile la robe, le genre s'efface. Justement, croire le contraire, c'est prêter crédit à ces préjugés qui existent depuis toujours et s'imaginer que parce qu'on est un homme ou parce qu'on est une femme, on va plaider de telle ou telle façon. Vous avez dans toutes les avocates pénalistes certaines qui ont le verbe haut, d'autres qui aiment chuchoter des histoires à la cour. Certaines savent s'indigner, gronder, comme certains hommes le font. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être une femme ou d'être un homme. Ce qui compte, c'est la personnalité.
Vous êtes d'accord avec elle? Il n'y a pas une manière féminine de plaider?
Non, je suis assez d'accord avec elle. Je pense qu'il n'y a pas une manière féminine de plaider. Ensuite, dans l'ensemble, on a quand même des voix moins fortes. Ce qui fait que dans certains procès, on sera sur un autre registre quand même.
C'est une faiblesse de ne pas avoir une voix qui porte quand on est pénaliste?
Je ne crois pas.
Ah.
En tout cas, je pense que toutes les faiblesses peuvent être des armes.
Parce que du coup, on doit tendre l'oreille pour vous écouter?
Moi, j'ai un souvenir très précis d'un dossier politico-judiciaire qu'on a eu il y a de nombreuses années maintenant, où je prenais la parole après un ténor, avec une voix particulièrement forte et bruyante presque. Et j'étais juste désespérée en me disant « mais je vais passer après ». Il a plaidé pendant une heure, il a un coffre. Et en fait, je me suis levée et j'ai vraiment tout fait sauf forcer ma voix. Et en réalité, il y a une espèce de silence qui s'est créé dans la salle, d'écoute. Voilà, il faut jouer de ça et ça peut être un plus. Et puis, je pense aussi qu'il y a certains dossiers dans lesquels ces exercices oratoires-là sont presque déplacés et ridicules.
En faire trop,
oui.
Parfois, certains de vos collègues, vous les trouvez un peu pathétiques? dites la vérité.
Non, mais par moment, je
trouve... Quand ils font des effets de manche, la grosse voix et tout ça.
En tout cas, ce que je n'aime pas, c'est que le plaisir de plaider pour soi s'efface derrière la défense.
Vous avez un truc pour bien plaider, vous?
Non, je n'en ai aucun. Je sais que je suis hantée par la peur. À chaque fois que je plaide, je me refais toujours la plaidoirie que j'aurais dû faire après avoir fini de plaider. Je n'aime pas être enfermée dans un carcan, c'est-à-dire je travaille beaucoup, mais je n'écris pas, par exemple, ma plaidoirie en entier, je ne supporte pas ça. J'ai besoin de m'évader de mes notes.
Vous ne dormez pas la veille d'une plaidoirie importante?
Je dors toujours mal.
À chaque femme puissante, je demande une chanson qui incarne pour elle les femmes puissantes. Vous avez choisi quoi?
Alors j'ai choisi John Baez. La balade de Sacco et Vanzetti, une chanteuse que j'écoutais petite fille parce que mes sœurs qui étaient plus grandes l'écoutaient. Cette chanson, c'est aussi une chanson qui me touche parce que c'est quand même l'histoire d'un procès qui se termine encore aujourd'hui par des interrogations. Un procès à charge dans lequel les dés étaient jetés d'avance. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette musique-là.
Last and final moment is yours.
C'était le choix de Jacqueline Lafont, John Baez, la balade de Sacco et Vanzetti.
Léa Salamé sur France Inter.
Beaucoup disent, Jacqueline Lafont, que c'est en 2010, alors que vous plaidiez la relaxe de Charles Pasqua devant la Cour de justice de la République, que vous avez vraiment pris votre envol. L'occasion pour nous de réentendre, juste pour le plaisir, la voix de Charles Pasqua.
Ça fait 11 ans que j'ai été traîné dans la boue, c'est que j'ai été considéré en grande partie dans l'opinion publique comme coupable. Aujourd'hui, justice est rendue, je suis soulagé, mais ça aura des conséquences à terme.
Je suis émue de l'entendre parce que Charles Pasqua, en réalité, je suis arrivée un peu par hasard. Donc Pierre, mon mari, le défendait. Il y a un procès dans lequel il ne pouvait pas le défendre. Et puis son avocat s'est désisté au dernier moment. Et j'étais à table avec tous ces avocats hommes. Et on cherchait l'avocat qui pourrait le défendre. Et personne n'a pensé à moi, même pas moi d'ailleurs. Et c'est lui qui a dit, mais ce sera Jacqueline.
Ah, c'est lui qui a dit
ça. Et c'est lui
qui
l'a dit, mais voyons, mais arrêtez de chercher, voilà. Et c'est comme ça que les choses ont commencé.
Et là, il y a un avant, un après. Vous avez le sentiment d'avoir marqué des points. J'ai lu à ce moment-là sur ce procès-là, le procès Pasqua devant la Cour de justice de la République, une chroniqueuse judiciaire de l'époque qui écrit, Jacqueline Lafont a une rigueur, une dureté métallique particulièrement efficace. Et vous avez gagné d'ailleurs.
Ouais. J'ai gagné, on gagne pas toujours, mais là j'ai gagné et j'étais très heureuse de gagner. J'espère que je ne suis pas trop dure. Par moments, je
lis ça.
Vous pouvez
faire peur parce que vous êtes d'apparence très belle, mais très dure.
Écoutez, ouais, comme quoi on ne se perçoit pas. Je ne me perçois pas comme puissante, mais je ne me perçois pas du tout comme dure. Je pense être d'ailleurs l'inverse de quelqu'un de dur. Mais en revanche, quand on défend un homme, une femme, on est obligé d'être dans la distance, quoi. On est obligé de mettre de la distance. Enfin, c'est notre rôle et de ne rien céder à l'émotion, quoi. On est tout tendu vers un but qui est la démonstration, la persuasion, la force de conviction.
Les femmes cèdent-elles plus à l'émotion, du coup ?
L'émotion, il en faut.
Pour convaincre un juge, hein.
Je pense, par exemple, au dernier procès de Charles Pasqua. Je me souviens très bien, ce n'était pas celui-ci, c'était un autre.
Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'affaires, Pasqua.
Il y en a eu beaucoup. Il a été très souvent laxé, d'ailleurs.
Oui, il y en a eu beaucoup, quand même, des casseroles.
Mais en fait, c'était un moment particulier de sa vie. Il avait perdu son fils. Je savais qu'il était très malade. Et voilà. Et d'ailleurs, il n'a pas assisté à sa relaxe, qui aurait été une relaxe s'il avait été vivant. Et donc, oui, je me souviens qu'à un moment donné, je sentais ça. J'avais un peu l'impression d'avoir une responsabilité particulière parce que je voulais, c'est son dernier procès. De temps en temps, c'est difficile de ne pas céder à l'émotion.
Mais et vous aviez cédé à ce moment-là ?
Je m'étais retenue. Ça avait été très limite.
Vous avez failli pleurer devant
oui.
les juges ?
Oui, j'ai failli. Non, mais je m'étais retenue. Je n'ai jamais pleuré en plaidant. Jamais. Mais il m'est arrivé de devoir m'arrêter, me reprendre, etc. Mais je pense que l'émotion, c'est important aussi quand on plaide.
Vous nous parlez de Charles Pasqua qui vous a choisi, c'est lui qui a choisi oui. une femme au milieu de tous ces hommes oui. qui se proposaient de le défendre. Oui. Il y en a un autre qui a fait ça, c'est Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, si vous êtes connu du grand public aujourd'hui, c'est peut-être grâce à l'affaire Sarkozy, il y a eu pléthore de une de journaux, Madame l'avocate, l'avocate de Sarko, une femme à la barre, etc. Comme si c'était une incongruité au fond que Nicolas Sarkozy choisisse une femme.
Mmh. Vous avez raison. C'est exactement ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça a été perçu. Une incongruité, d'abord que ce soit une femme, et ensuite que Nicolas Sarkozy choisisse une femme. Je pense qu'il y avait ces deux réactions-là, un peu surprenantes, et une femme seule. J'ai toujours été présentée dans ses portraits, une femme seule à la barre, comme si une femme ne pouvait pas être seule. À la barre. Un homme, personne ne se poserait la question. Pour moi, on se l'est posé, parce que je suis une femme, quoi.
Et effectivement, on dirait pas Maître Herzog seul à la barre.
Seul à la barre, Maître Temim seul à la barre, Maître n'importe quel homme. Maître Dupont-Moretti seul à la barre, il ne l'est plus.
Alors là, encore.
Voilà. Et c'était une assez forte pression pour moi, parce qu'en réalité, j'avais l'impression qu'on m'attendait au tournant. Bon, en fait, ce métier, je le fais depuis très longtemps. Le plus souvent dans l'ombre, pas que non plus, vous avez rappelé quelques dossiers. Et je trouve que Nicolas Sarkozy m'a fait confiance.
Alors, expliquez-nous, oui. parce qu'à l'origine, c'est pas vous, c'est votre mari, Pierre Haïk, qui était l'avocat de Nicolas Sarkozy. Voilà. Il a dû se retirer pour des raisons de santé.
Absolument.
Et vous avez écrit à Sarkozy en lui disant... Évidemment, je peux me désister puisque c'est plus mon mari. Qu'est-ce qu'il vous a répondu ?
C'est quelque chose qui a été dévoilé dans la presse, mais pas par moi. Donc, ce qu'il m'a répondu de façon très précise, je ne le dirai pas. En revanche, il m'a dit, mais Jacqueline, mais je ne me suis même pas posé cette question. On continue tous les deux, et c'est ce qu'on a fait.
Parce que quoi qu'on peut penser de Nicolas Sarkozy, c'est pas l'objet de cette interview-là, c'est vrai que ça revient souvent. Nathalie Kosciusko-Morizet, que j'ai interviewée dans Femmes Puissantes, qui se plaignait du degré de sexisme et de remarques misogynes qu'elle avait subies dans son propre parti à droite, elle n'a sauvé qu'une seule personne, elle a sauvé Nicolas Sarkozy, dont elle disait « c'est le seul qui est féministe ». Écoutez-la.
Pour lui, il n'y avait pas de question sur le fait qu'intellectuellement, les femmes et les hommes étaient égaux. Ça a l'air dingue, hein, ce que je vous dis. Mmh. Mais en vous disant ça, je vous dis en même temps que pour d'autres, c'était probablement pas évident. Sur le caractère vraiment contemporain, à trouver que c'est bien de bosser avec les femmes, c'est intéressant, qu'elles sont pas illégitimes ou invitées par erreur, ou que c'est bien qu'elles soient là. Oui, oui, je crois que c'est. Enfin, moi, dans mes années de pratique politique, c'était probablement un des dirigeants les plus avancés là-dessus.
Je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit, et ça se vérifie dans les faits. Vous savez, un procès, c'est une aventure. C'est-à-dire que on se voit beaucoup pendant ces temps-là, on partage des moments forts, intenses, où on se met à nu, et c'est forcément des moments où le naturel revient au galop. Et je pense qu'il n'est absolument pas misogyne, que c'est totalement extérieur à son mode de fonctionnement.
Et par rapport à d'autres que vous avez défendus, vous avez vu parfois dans ces moments où ils se mettent à nu, des moments de misogynie, vous avez souffert de ça ?
Moi, j'ai été assez préservée de ça, je trouve. Je l'ai vu chez certains confrères. Les clients, une fois qu'ils vous font confiance, en général, ils ne sont pas sur ce terrain-là. Alors, ensuite, vous voyez ceux qui... Là, par exemple, un client qui s'interrogeait à me prendre, et puis il m'a dit, écoutez, non, en fait, je pense que dans mon dossier, il vaut mieux un homme. Bon, donc on peut avoir ce genre de réflexion.
Donc vous l'avez eu, vous avez perdu certains dossiers, on vous a dit clairement, pardon, mais je préfère un homme.
Oui, c'est arrivé. Alors, on peut aussi dire, je préfère une femme. Ça arrive, et peut-être que ça arrive de plus en plus souvent, d'ailleurs. En revanche, il m'est arrivé d'être face à un confrère qui faisait vraiment preuve d'une misogynie absolument incroyable dans le cadre d'un procès. Un confrère qui se reconnaîtra. En fait, on avait un procès qui était assez fort. J'avais plaidé, je pense, enfin, j'ai la faiblesse de croire que je l'avais un peu déstabilisé. Voilà. Et en réalité, il a commencé à plaider en singeant ma voix de façon ridicule,
non,
en allant très haut dans les aiguilles, en disant « Écoutez, on vient de vous faire du Mireille Dumas ». Je suis restée calme, j'ai attendu qu'il plaide, je l'ai écouté. Et quand je suis sortie, je lui ai dit ce que je pensais de lui. Surtout que c'était assez rigolo, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est assez donneur de leçons.
C'est quelqu'un de très médiatique.
Oh, un peu, oui.
On ne donnera pas son nom.
Non, on ne donnera pas son nom.
Vous lui avez dit quoi à ce moment-là ?
Je lui ai dit que je l'avais trouvé absolument lamentable et pathétique. Mais en fait, je crois qu'il avait vraiment été déstabilisé. Et vraiment, il a commencé à gna gna gna, en me singeant de façon absolument...
En prenant une voix de femme, gna gna gna.
De femme, gna gna gna, ridicule,
hystéro,
aigu, voilà, voilà. Donc ça, c'est le souvenir le plus cuisant, oui. Mais il m'a rappelé le lendemain et il s'est excusé platement.
Ah, quand même.
Oui.
Comme quoi?
Oui.
Le ZAP.
Je déclare l'audience ouverte.
Pour en parler ce soir, l'avocate d'Alexandre Benalla, maître Jacqueline Lafont.
Bien, c'est finalement le couple Pierre Haïck, Jacqueline Lafont qui reprend le flambeau de la défense pour l'ex-musclor de l'Élysée.
Je pense que les choses sont peut-être encore plus complexes que cela.
Le couple Haïck-Lafont, redoutable en procédure, a défendu des hommes de pouvoir comme Nicolas Sarkozy ou Serge Dassault.
Je vais être entendue en vertu de votre pouvoir discrétionnaire.
Moi, je vais vous dire, je suis très très attachée, j'espère que vous l'êtes aussi, à la présomption d'innocence. C'est un principe qui vous concerne tous. Peut-être que demain, vous serez poursuivi dans un dossier et vous aurez besoin d'avoir un avocat pour vous défendre.
Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.
Ça peut vous arriver à vous, à moi, à n'importe qui d'entre nous. C'est probablement le principe le plus important qui soit dans notre société.
On ne trouve que 5 femmes dans ce top 30. Jacqueline Lafont pointe à la 4e place, derrière son compagnon Pierre Haïck.
Moi, je suis désolée, j'ai une arme, c'est le code de procédure pénale. Il y a des principes qui sont des principes fondamentaux auxquels je tiens et pour lesquels je me battrai toujours et pour lesquels nous devons tous nous battre toujours.
Contentons-nous des faits et rien que des faits.
Il me semble que la confiance des citoyens en la justice, elle est absolument primordiale. La confiance des citoyens en leur avocat est absolument primordiale.
Bravo, parce que avocate de Nicolas Sarkozy, c'est un des jobs les plus fous de ce pays, c'est fou.
Et moi, j'ai un espoir, il est peut-être naïf, c'est que le droit vaincra.
Toute votre carrière, Jacqueline Lafont, vous l'avez bâtie aux côtés de votre mari, maître Pierre Haïck. On a parlé de vous comme d'un couple fusionnel. Longtemps, on vous a présenté aussi comme la discrète, comme la femme dans l'ombre de son mari Pierre Haïck. Ça vous allait d'être présentée comme ça, d'être moins exposée que lui? Ça ne vous gênait pas?
Non, non, ça ne me dérangeait pas. Dans nos rapports, tous les deux de travail, il y avait un vrai respect mutuel.
C'était un partenariat 50-50.
Ah oui, vraiment. Oui. En fait, on a vraiment travaillé de façon c'est vrai, assez fusionnel. En fait, lui, il souhaitait que j'intervienne plus. Moi, ça me gênait, même dans les repas. Il n'arrêtait pas de faire des compliments sur moi, etc. Je veux dire, Pierre, il était tout sauf misogyne. Ouais. Ni dans notre vie de couple, ni dans notre couple professionnel. Voilà, et puis ensuite, l'histoire est ce qu'elle est. Et je suis un peu plus devant...
Aujourd'hui.
Presque contrainte et forcée, on va dire.
Votre consort, Emmanuel Kneuzé, qui a été marié aussi au pénaliste Philippe Lemaire, dites-vous, Jacqueline était dans l'ombre de Pierre et très contente de l'être. Nous avons toutes été comme elle, trop discrètes. On a travaillé 4 fois plus que les hommes, mais on n'aime pas se montrer, c'est dans les gènes de notre génération.
Oui, c'était peut-être dans les gènes. Peut-être que si je ne le recherchais pas, c'est que quelque part inconsciemment, je considérais que c'était normal, c'était ma place, je n'en sais rien. En revanche, ce que je sais, c'est que ça ne me posait pas de problème, que je ne le recherchais pas. Il faut dire aussi, quand même, que Pierre n'était pas très exposé médiatiquement, il n'aimait pas trop cela non plus. Puis bon, après, ensuite, il était malade.
On a un extrait de sa voix, puisque je ne voyais pas comment je pouvais faire ce podcast avec vous sans mettre la voix de Pierre Haïk, tant votre mari a compté pour vous, a été essentiel dans votre vie personnelle, mais surtout dans votre vie professionnelle, parce que ça m'intéresse ici. Et donc, c'était un extrait, on est en 2006, où il parle de la présomption d'innocence. C'est au téléphone sonne.
Tout le monde est attaché fondamentalement au principe de la présomption d'innocence. Ce qui me paraît plus important, c'est de savoir comment ce principe est respecté, voire, et surtout, ce qui est encore plus important, comment il est systématiquement bafoué. Parce que ça, c'est capital. Et dans le combat judiciaire que nous menons tous les jours, ce principe est bafoué parce que on accorde une importance à la parole de celui qui se transforme en accusateur. Donc il faut faire attention à ce statut privilégié que dans notre institution judiciaire, on a tendance à accorder aux accusateurs. Tout d'un coup, ils deviennent les détenteurs de la vérité. C'est extrêmement dangereux.
Quand Jacqueline a commencé à plaider, le regard de Pierre lui importait plus que celui du tribunal. Dites-vous, Sébastien Chapira, qui fut l'un de vos collaborateurs, c'est vrai ça, au début, son regard à lui était plus important que celui du tribunal ?
Je ne sais pas. C'est sa perception. Sébastien Chapira, ça a été un collaborateur pendant longtemps. C'est aujourd'hui un ami. C'est comme ça qu'il a vu les choses. Donc peut-être, je ne l'ai pas ressenti comme cela. Mais je pense qu'on était tous les deux, oui, dans la volonté mutuelle d'être bons, de faire tous les efforts possibles pour arriver à la meilleure défense possible. En plus, j'admirais beaucoup sa façon d'être avocat. Donc oui, ça comptait forcément.
Mais votre histoire est particulièrement romanesque. Vous arrivez, vous êtes sa collaboratrice, vous avez 23 ans, il en a 33. Vous êtes fiancée, lui, il est marié avec 2 enfants. Et là, c'est le coup de foudre. Et puis, vous êtes tellement à l'opposé. C'est-à-dire que lui, juif pied-noir d'Algérie, exubérant, colérique, éruptif, et vous, fille d'une famille de militaires, catholiques, réservés, c'était ça votre couple, votre rencontre, votre amour aussi ?
Oui, c'est vrai qu'on venait d'horizons extrêmement différents. Moi, je pense que c'est ce qui m'a plu. Moi, j'ai grandi dans une famille assez conventionnelle, assez classique, et en même temps, pas tant que ça. Et j'ai aimé cette différence. J'aime ça pour ce que nous étions tous les deux, j'aime ça pour mes enfants, je trouve que c'est une source de richesse formidable. Et c'est vrai aussi que je pense qu'on était quand même réunis par des valeurs fortes. Il y avait une espèce de révolte toujours dans la façon dont Pierre exerçait ce métier, une force d'indignation, de... C'est une sorte de combat quand même, c'est-à-dire que ce sont nos petits combats, mais à chaque fois qu'on plaide, on essaie d'avoir une justice plus juste. Et moi, je me retrouve tout à fait là-dedans et j'ai peut-être une apparence plus
bourgeoise, plus retenue.
Plus bourgeoise, plus retenue, mais en réalité, je pense que je le suis peut-être moins que je n'en donne l'apparence.
Vous avez aussi cette révolte intérieure, cette capacité d'indignation, ça vous relie à lui.
Ah oui, ouais.
Contre quoi ? Qu'est-ce qui vous indigne ?
Je trouve que dans le combat judiciaire, on est face à un pouvoir qui peut broyer des gens. On est dans un niveau d'inégalité dans la façon d'agir et de défendre. Et à chaque fois, on a l'impression d'accompagner des gens. C'est leur vie qui en dépend. Et c'est ça, la révolte que l'on a et que l'on a de manière quasiment systématique.
Quand il est tombé malade, quand il a dû s'arrêter de travailler, est-ce que vous avez hésité à tout arrêter ? À fermer le cabinet ?
Jamais. Je ne me suis même pas posé la question. Regarde deux secondes. J'ai eu peur. Je passe sur les aspects évidemment personnels difficiles, d'assurer la suite de ce cabinet dans un moment de l'existence qu'il est pour moi, pour mes enfants, qu'il était et qu'il est toujours. Mais je ne me suis pas posé la question une seule seconde. Pour moi, c'était une évidence. Je continuais et puis je continue à faire vivre ce cabinet. Ouais.
Vous avez travaillé des dizaines d'années tous les deux en couple fusionnel. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit « je ne vais pas y arriver »
Oui, j'ai eu peur. Je ne me suis jamais dit que je ne pourrais pas y arriver. Je ne me suis jamais dit que j'en avais pas la capacité. Je me suis dit que j'en aurais peut-être pas toujours la force. Et puis après, j'ai des enfants. Je trouvais que c'était important de leur montrer que voilà, dans la vie, il faut réagir aux événements. Il ne faut pas les subir. Il fallait qu'on continue de vivre, quoi. C'est ce que j'ai fait.
C'est aussi ça, une femme puissante.
Oui, ça, je pense. Oui.
À ce moment-là, vous avez été puissante quand vous prenez la décision de continuer.
Oui.
D'abord de vous occuper de votre mari, parce que vous faites toujours.
Oui.
Ce qui n'est pas toujours facile de s'occuper de quelqu'un.
Non.
Et de continuer le cabinet.
Oui, oui. Ben, vous savez, enfin, ça rejoint ce que je vous disais. Dans ma vie, mon ambition, elle a été celle-ci, quoi. Donc, ça continue à travers cet autre combat-là, qui n'est pas vraiment le plus simple, d'ailleurs. Mais oui, d'être là sur tous ces terrains, de temps en temps, c'est lourd et difficile.
Mais malgré tout, vous surmontez, vous trouvez la force de surmonter.
Oui, ben, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des moments de désespérance, de difficultés, d'interrogation, de fatigue. Voilà, de temps en temps, les journées sont dures, sont longues. Et puis, dans certains procès, avec des pressions très fortes, parfois, c'est difficile. Ouais. Mais pour moi, c'était fondamental.
Ne me parle pas de sentiments. Je sais déjà qu'on se mentirait. T'es bien meilleur quand tu fais semblant. Derrière l'écran, plutôt qu'en vrai. Tu dis j'aime, qu'est-ce que t'aimes vraiment. Tu confonds le cœur et l'intérêt. Si tu veux jouer au compliment, fais-le plus fort que je le fais. Je t'ai tellement regardé sans rien dire. J'aurais pu compter tout. J'ai fait mettre à tes yeux des aimants. N'oublie jamais que je suis tout à toi, autant qu'à eux, vivement. Identique, c'est la photocopie. On ne peut compter que sur mes doigts. Je me lève à l'heure du photocall pour être sûr que tu me vois. Je t'ai tellement regardé sans rien dire. J'aurais pu compter tout.
C'était Hématome de l'Impératrice sur Inter.
Femme puissante, Léa Salamé.
Est-ce qu'il y a, Jacqueline Lafond, une affaire qui vous a marqué plus que d'autres dans toute votre vie professionnelle ?
En fait, les affaires qui m'ont marqué, il y en a des dizaines. Hein. Quand je suis dans un dossier, je suis dedans, mais complètement. Celle qui me marque le plus, parce que je trouve que c'est la chose la plus abominable, c'est celle dans laquelle je pense que peut-être que des innocents ont été condamnés. Et oui, ça m'est arrivé de plaider, de tout faire, de travailler, de me battre et de ne pas y arriver. On est souvent confronté à l'échec dans cette profession.
Et comment on gère l'échec ?
On le gère en se disant, tant qu'on a des voies de recours, qu'il faut aller jusqu'au bout, qu'il faut aller en appel, qu'il faut aller en cassation, quand on y croit. Et parfois, on n'y arrive pas. La seule chose qui est importante, c'est de pouvoir dire qu'on a fait du mieux que l'on pouvait. Voilà, et qu'au bout du compte, cette décision, c'est pas nous qui l'avons prise. Une des choses les plus atroces pour moi, les plus horribles, les plus monstrueuses, c'est d'être accusé à tort. Donc c'est quelque chose de très lourd à porter quand vous êtes avocat, que quelqu'un vous a fait la confiance de vous demander de le défendre et de ne pas y arriver.
À quoi sert un avocat ? Quel est son rôle quand il défend un criminel ? Écoutez la définition qu'en donne Maître Henri Leclerc sur France Culture dans La Grande Table.
Moi, je sais que je me trouve en face de quelqu'un que tout le monde déteste. Je suis seul, hein. Et s'il n'en reste aucun, je suis là à la fin. Et je suis seul et il y a des gens qui vont le juger. Alors évidemment, ça peut être des méchants. J'ai envie de les convaincre. Et pour avoir envie de les convaincre, il y a l'émotion, c'est un des éléments. Mais la raison en est un autre. Et il y a des gens, quand on a envie de convaincre quelqu'un, on l'aime d'une certaine façon lui aussi. En définitive, on a un trait d'union entre quelqu'un que tout le monde déteste et quelqu'un qui va rendre un jugement. Et ce que je voudrais, c'est montrer que celui que tout le monde déteste, il faut quand même l'aimer parce que c'est un être humain. Nous sommes les porteurs de fraternité.
C'est beau, non, comme définition
c'est
de
beau,
votre métier.
De toute façon, tout ce que dit Henri Leclerc est beau. Ça fait vraiment partie de ce que j'ai profondément admiré, aimé. Et j'ai aimé sa façon aussi d'exercer ce métier avec beaucoup d'humanité.
Il faut aimer un criminel parce que c'est un être humain. Il faut quand même l'aimer.
Alors, je ne dirais pas qu'il faut quand même l'aimer. Je dirais qu'il faut lui rendre sa part d'humanité. Même le pire des criminels, le plus monstrueux des dossiers, quand vous défendez un homme qui a commis la pire des atrocités, quand vous le défendez, vous lui rendez cette part d'humanité. Et c'est ça qui est formidable.
Il y a un dossier trop atroce que vous avez refusé parce que vous avez dit « je ne pourrais pas défendre cet homme » ou cette femme d'ailleurs.
Oui, il y a un dossier que j'ai refusé. C'était un dossier de torture par des parents sur un jeune enfant. Je pense que ces gens-là doivent être défendus. Je pense que c'est l'honneur des avocats que de les défendre. Et c'était une période de ma vie où je pensais qu'il ne fallait pas que je le fasse parce que j'avais peur de ne pas le faire bien. Voilà. Et ce dossier-là, je l'ai refusé. Ouais.
Parce qu'il y avait un enfant.
Parce qu'il y avait un enfant et qu'il était particulièrement difficile. Et que je ne me sentais pas... Alors, dans ce cas-là précis, la force de le faire.
Qu'est-ce que votre métier vous a appris sur la violence des hommes ? Puisque c'est un métier incroyable pour observer la nature humaine, d'être avocate pénaliste et parfois les choses les plus sordides. Je sais qu'au début de votre carrière, vous avez eu affaire à une affaire de cannibalisme, par exemple. Mmh. Vous parliez de torture de parents sur les enfants. Qu'est-ce qu'à la fin des fins, vous avez compris sur la nature humaine ?
Il y a effectivement des actes abominables qui peuvent être commis par des hommes qui sont encore des hommes et dont on se rend compte souvent quand même que si ça n'excuse pas, en tout cas, un cheminement peut souvent s'expliquer. Le plus souvent quand même, ce que l'on comprend, ce que l'on constate, c'est que ça n'arrive pas à n'importe qui, ça n'arrive pas n'importe où. Et la réalité, c'est que ces parcours-là, à part quelques exceptions qui sont plutôt liées à des problèmes de psychiatrie pure, ces parcours-là, en général, ils sont le fruit d'une vie chaotique, et parfois monstrueuse aussi.
Femme puissante, Léa Salamé, sur France Inter.
Il est également question de vous, Jacqueline Lafond, dans le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, où elle raconte l'inceste subi par son frère de la part de leur beau-père, Olivier Duhamel. Elle décrit une avocate, elle donne pas votre nom, mais c'est vous. Verbe franc, voix posée, elle dit à Victor, à son frère, donc, vous avez été victime d'un crime, monsieur.
Alors, ce que je voudrais, c'est important, c'est de restituer le contexte. C'est un contexte dans lequel je reçois une personne qui me livre son récit. Et ce qui est clair, c'est que le récit qu'il me livre est en effet celui d'un viol, est en effet celui d'un crime. Je ne suis pas juge, ce n'est pas moi qui décide de la culpabilité ou de la non-culpabilité de quelqu'un. D'ailleurs, je n'ai pas voulu être juge, j'aurais eu beaucoup de mal à le faire. Mais à ce moment précis, je pense qu'il est important qu'il entende ça. Ça n'a pas d'autre conséquence que cette discussion dans un huis clos, qui ne l'est plus tout à fait aujourd'hui. Mais je crois qu'il était nécessaire que je lui dise cela.
Alors on entend les pimpons parce qu'on est à côté du palais de justice.
On est à côté du palais de justice et donc vous avez le balai.
Les détenus qui passent pour être jugés au palais de justice.
Qui passent pour être jugés ou pour repartir.
Autre témoignage fort autour de la libération de la parole, pas des enfants mais des femmes, celui d'Adèle Haenel sur Mediapart. Écoutez-la, elle a du mal à faire confiance à Adèle Haenel à la justice.
J'ai jamais pensé à la justice parce que il y a une violence systémique qui est faite aux femmes dans le système judiciaire. Moi, je crois à la justice, mais il faut que la justice, elle parle de toute la société. Quand on voit à quel point les femmes sont méprisées dans le système judiciaire ou dans les situations de, par exemple, de violence sexuelle ou de viol, c'est un viol sur 10 qui aboutit à une condamnation en justice. Ça veut dire quoi? Des 9 autres? Ça veut dire quoi de toutes ces vies, en fait? La justice doit se remettre en question de ce point de vue-là. Moi, je crois à la justice, et je crois que la justice peut se remettre en question, mais elle doit impérativement le faire si elle veut être à l'image de la société.
Qu'est-ce que vous avez pensé de ça, de son témoignage? Alors, bon, de ce qu'elle dit de la justice aussi.
Moi, j'entends ce qu'elle dit et j'entends toujours les récits des femmes qui ont souffert. Et je ne peux que les respecter et les écouter et les entendre. Voilà. En revanche, ce que je pense profondément, c'est qu'il n'y a qu'une seule réponse à cela. Une seule réponse, et elle est judiciaire. C'est-à-dire qu'une accusation ne sera jamais une preuve. Jamais. Je pense que on peut regretter, déplorer que dans certains commissariats, la parole des jeunes femmes ou des femmes plus âgées, peu importe, qui viennent se plaindre de violences, d'agressions sexuelles, ne soient pas suffisamment prises en compte. Et ça, il faut y remédier. Je pense que des choses sont faites pour cela.
Et que les plaintes sont classées, et que les plaintes n'aboutissent pas, et que les hommes ne soient pas condamnés.
Oui, mais si vous voulez, il y a une chose qu'il faut juste essayer d'accepter, c'est-à-dire que vous pouvez avoir été victime, vous devez saisir la justice. Et vous pouvez avoir été victime et vous pouvez ne pas obtenir la condamnation de la personne, parce qu'une parole ne peut jamais être une preuve. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas reconnu dans ce statut, ça veut dire que la justice fonctionne. Et si demain nous avons une justice dans laquelle nous acceptons que l'accusation est égale à une preuve, sans aucun autre élément, sans aucun autre indice, nous avons tous à nous inquiéter, et énormément. Donc il faut faire des progrès pour que les femmes puissent être entendues, puissent être prises en charge et en compte correctement par la justice, mais il ne faut pas de dérive. La présomption d'innocence, je pense que c'est le principe qui supplante tous les autres.
Tout de même, qu'est-ce que vous avez pensé, Jacqueline Lafond, de ce mouvement de libération, MeToo, Balance ton porc, tout ce qu'on a vu avec toutes ces femmes qui, soudainement, cassaient le verrou, commençaient à parler? Est-ce que ça vous a étonné? Est-ce que l'ampleur de cette libération de la parole vous a étonné? Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça bien? Vous trouvez ça excessif? Vous pensez quoi de tout ça?
Alors, Balance ton porc, c'est vraiment un titre que je n'aime pas. Voilà, tout ce qui appelle à délation, j'ai vraiment beaucoup de mal avec cela. Je pense que MeToo était un phénomène important que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et je pense qu'il était nécessaire. Oui, il faut que les femmes puissent venir se plaindre si elles ont été victimes d'agressions sexuelles, de harcèlement. C'est absolument nécessaire. Ce que j'ai trouvé monstrueux en réalité, ce sont des récits de femmes qui venaient dire qu'elles avaient accepté de se laisser harceler, de se laisser agresser sans rien dire. C'est ça qui est affreux. Donc ça, oui, je trouve que c'est quelque chose d'important. Et si ce mouvement-là, et je l'espère, et je pense que c'est le cas, a permis de libérer, comme on le dit effectivement, la parole, je ne peux que m'en réjouir. En revanche, ce que je dis, c'est que ces phénomènes médiatiques-là s'accompagnent toujours de dérives, toujours d'excès.
Mais n'est-ce pas normal qu'il y ait aussi des excès avant que tout s'équilibre ?
Normal, je ne pourrais pas employer ce mot-là, je dirais peut-être inévitable, mais je pense qu'on est tous là pour essayer d'éviter l'inévitable. Et oui, il faut canaliser cela. Il faut, enfin, moi, je suis très, très, très réservée par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce déversement de haine, ces accusations sans preuve, ces gens qui sont jetés en pâture. Je trouve que des choses monstrueuses s'écrivent tous les jours. Ça, je pense que ça n'est pas bien. C'est peut-être inévitable, mais il faut essayer de l'éviter.
Vous êtes sur les réseaux sociaux?
Non, pas du tout.
Vous regardez jamais?
Ah, non, jamais.
Pendant
jamais.
Le procès Sarkozy, vous n'avez rien vu de
jamais,
ce qui s'est dit?
Jamais, jamais, jamais.
Vous vous préservez comme ça?
Ah oui, je me préserve parce que je trouve ça abominable et je pense que cela, c'est inquiétant. Et c'est dommage. Évidemment que je suis pour la libération de la parole des femmes. Évidemment que je suis pour que des jeunes femmes aillent déposer plainte quand elles sont agressées. Je pense que nous avons un rôle à jouer. Enfin, moi, j'ai deux fils. Je leur ai appris ça. Je leur ai appris le respect des jeunes femmes. Je leur ai appris qu'on avait le droit de dire non jusqu'au dernier moment. Je leur ai appris tout ça. Et les jeunes femmes que j'ai rencontrées, je leur ai toujours dit cela. Enfin, je pense être profondément sensible à cela.
C'est aussi le travail d'une mère.
Ah, c'est évidemment le travail d'une mère.
Ça commence là.
D'une mère ou d'un père aussi. Oui, ça commence là.
D'apprendre les limites.
Ah oui, d'apprendre les limites et de fixer les limites.
Vous êtes féministe ?
Oui. Je suis évidemment féministe en ce sens que, pour moi, il est une évidence que les droits des femmes et les droits des hommes doivent être les mêmes.
Ils ne le sont pas encore.
Ils ne le sont pas encore. Ils ne le sont... on y tend, on s'en approche. Moi j'ai été... élevée par une mère qui était à la fois assez traditionnelle et en même temps assez féministe avant l'heure. Enfin, l'autonomie financière, pour moi, elle est absolument nécessaire. Elle est nécessaire dans la vie tout court, elle est nécessaire dans son couple, elle est nécessaire pour ses enfants. Elle est nécessaire quand vous êtes confronté à des accidents de la vie et que vous devez être seul dans une famille à faire vivre votre famille. Enfin,
ce qui est votre cas aujourd'hui.
Ce qui est mon cas aujourd'hui. Évidemment que c'est fondamental.
Votre mère, vous en parlez à l'instant. Vous avez perdu votre mère quand vous étiez jeune, à 19 ans. Qu'est-ce que ce manque de mère a provoqué chez vous, dans votre caractère, dans votre personnalité ?
L'idée qu'il fallait vivre vite, que les choses étaient éphémères, hein, qu'il fallait vivre intensément, qu'il fallait avoir une jolie vie, une jolie existence, que la maladie était là, pas loin, la mort, pas loin. Ouais.
Vous diriez aujourd'hui que vous avez eu une jolie existence,
ouais.
Jacqueline Lafon ?
Oui, oui, oui. Ouais.
Quelques questions de fin pour terminer. Vous répondez spontanément, ou vous répondez pas, d'ailleurs vous avez le droit. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi ?
Je trouve qu'en réalité, ces trois mots sont tellement imbriqués et qu'ils n'ont pas de sens les uns sans les autres. Je n'ai pas tellement envie de choisir entre ces trois-là, parce que la liberté sans fraternité, sans égalité, ça peut être compliqué. Je trouve que ces trois mots sont beaux et je n'ai pas envie de choisir.
Pour vivre heureux, vivons cachés. Vous êtes d'accord avec ça ?
Plutôt.
De gauche, de droite, ou ne se prononce pas ?
Ni de gauche, ni de droite. Ce qui m'importe, moi, c'est la justice sociale, la justice tout court.
Charles Pasqua ou Nicolas Sarkozy ?
Là, je dis Joker.
Et puis la question de fin, la question Jacques Chancel pour terminer. Et Dieu dans tout ça, est-ce que vous êtes croyante ?
Écoutez, je crois que je le suis plutôt. Mais je m'interroge, je me suis souvent interrogée. Et je pense toujours à mon père quand on me pose cette question. Parce que quand je lui posais la question et quand j'étais révoltée par des malheurs, les nôtres, ceux d'autres sur la Terre, etc., il me disait toujours, mais... Voilà, cette nature a créé tellement de beauté, tellement de merveilles que ça ne peut être que Dieu. J'essaie de penser à ça.
Merci Jacqueline Lafon. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre cabinet ici pour parler de votre puissance et de la puissance des femmes.
Merci.
Une nuit, je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Je sens la fièvre qui me mord, sans que j'aie l'ombre d'un remords. Et l'aurore m'apporte le sommeil. Je ne veux pas qu'arrive le soleil.
Sanson qu'on adore. Cette émission a été préparée par Alexandre Gilardi, Paola Puerari et Marie-Elisabeth Jacquet. À la prise de son, Sandrine Malon. À la programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert. À la réalisation, Juliette Acus.